L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Alors, êtes-vous prêt maintenant à aller dans la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous vivant ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Mais ce matin, on va commencer une série d'études sur l'Apocalypse. Vous allez dire, ah, l'Apocalypse, mais on entend des fois parler de l'Apocalypse. Des fois aussi, certains d'entre vous, vous avez été exposés à des enseignements sur l'Apocalypse. Peut-être c'était lourd et peut-être ça semblait très compliqué, très théologique. Et puis, vous étiez là puis vous posez la question, mon Dieu, est-ce que je vais arriver à comprendre un jour ce thème-là? Ça semble compliqué. Je peux vous dire, en partant là aujourd'hui, en commençant cette série, l'objectif, c'est pas de vous rendre des théologiens où vous allez comprendre chaque chose, chaque verset de l'Apocalypse, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Ça nous prendrait beaucoup de temps. Je crois pas que Dieu nous appelle à le faire en Église. Cependant, je pense que c'est important d'étudier l'Apocalypse à la maison, prendre le temps. Et si vous êtes vraiment intéressé, puis vous avez vraiment soif de connaître les choses de la fin des temps, on a un cours merveilleux à l'IBEM, à l'Institut biblique Enseigne-moi, Campus La Victoire. C'est une petite pub en ce moment, mais il y a environ 18 heures de cours qui sont données juste sur l'Apocalypse. Et c'est vraiment merveilleux. J'ai trouvé ça vraiment très, très bon. Alors, juste vous laisse savoir, si vous avez soif sur les choses de l'Apocalypse, vous pouvez étudier davantage. Et il y a des bonnes prédications également que vous pouvez vous procurer sur le thème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut juste commencer à s'exposer un petit peu sur notre avenir glorieux. Parce que le Seigneur nous a réservé plein de choses, plein de cadeaux pour l'éternité. Et c'est merveilleux pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de s'exposer à ces connaissances-là. Et je veux vous dire, avant d'aller plus loin, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà entendu des enseignements sur l'Apocalypse. Et peut-être, comme je vais enseigner, vous allez avoir des questions. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais vous inviter à conserver vos questions jusqu'à la fin de la série. OK? Conservez vos questions, parce qu'au fur et à mesure qu'on va progresser, peut-être vos questions vont se répondre. Et puis là, vous allez dire, ah, OK, là, je comprends. OK? Comme on dit des fois à l'IBEM, posez vos questions à la fin. Mais pas à la fin de la prédication d'aujourd'hui. Attendez, et ça va peut-être durer 2 ou 3 semaines, je sais pas. Mais on prendra pas 6 mois. Parce que le thème, si on voulait vraiment décortiquer, on prendrait 6 mois. Mais je crois pas que Dieu nous appelle à prêcher juste ça à l'Église. Mais en même temps, c'est un thème super important parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est la fin du monde? Peut-être vous avez déjà rencontré des personnes qui se posaient des questions. On voit des tremblements de terre, les tsunamis, les choses terribles qui se passent, les cataclysmes, la température qui change. Et puis les gens dans le monde séculier, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Les gens sont inquiets, ils se posent vraiment des questions, ils se demandent vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle à toujours être prêts à défendre la raison qu'on a cet espoir en Jésus. On est appelés à défendre notre foi et de donner une raison. Et vous savez, pour cette foi-là et cet espoir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas juste dire, ah, c'est la fin du monde. Non, on doit connaître vraiment l'espoir qui est là pour l'enfant de Dieu. Dieu a un espoir pour nous. Il nous laisse pas dans le découragement. Et Dieu n'a jamais fait en sorte qu'on soit pris dans la crainte ou le doute ou dans la terreur. Savez-vous ça? En tant qu'enfant de Dieu, on a un espoir. Et puis, quand on est un enfant de Dieu, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est qu'on peut garder nos yeux sur le Seigneur, sachant que Dieu a toujours une provision pour ses enfants. N'est-ce pas merveilleux? Dieu ne nous laisse jamais tout seul, il ne nous laisse jamais dans la crainte, mais le Seigneur nous invite à garder nos yeux sur lui et savoir qu'il va prendre soin de ses enfants. Amen. Donc, ce qu'on va faire ce matin, on va juste tourner dans l'Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, on va commencer au premier verset et on va premièrement remettre ce temps au Seigneur dans la prière. Apocalypse 22, commençant au premier verset. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, ou certainement. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je vais vous inviter maintenant à pencher vos têtes. On va remettre ce temps au Seigneur. Seigneur Dieu, on vient devant toi. On veut te remercier, Seigneur Dieu, pour ta parole. On veut te remercier, Seigneur, que tu ne nous gardes pas dans la noirceur concernant notre avenir, mais tu nous montres à l'avance les choses qui vont se produire, afin qu'on puisse se préparer, afin qu'on puisse marcher dans l'espoir. Et aujourd'hui, je te remercie pour la présence de ton Saint-Esprit qui est dans cette maison. Je te remercie, Seigneur, que chaque personne va quitter cette place encouragée, sachant qu'ils sont sauvés. Et je prie également pour nos amis à la radio, sur l'Internet. Je te remercie, Seigneur Dieu, que même là où ils se retrouvent maintenant, c'est que ton Saint-Esprit fait le travail dans leur cœur. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es un bon Dieu grand et glorieux. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. La question s'impose parfois, est-ce que c'est important pour moi de connaître les choses sur l'Apocalypse ou la fin des temps? Est-ce que c'est important pour moi dans ma vie pratique de tous les jours? Des fois, les gens vont dire, bien moi, je veux juste des choses pratiques, savoir comment vivre ma vie chrétienne. Mais je pourrais vous dire que c'est absolument important pour nous de connaître les choses sur l'Apocalypse, même si des fois on se dit, ah, mais ça c'est pour les théologiens. Des fois, il y a les chrétiens qui disent, moi je ne lirai même pas l'Apocalypse parce que c'est trop compliqué. Mais je peux vous dire que c'est pratique de connaître les choses de l'Apocalypse, savez-vous ça? C'est pratique. Puis on va voir pourquoi. Je vais vous donner des raisons, premièrement, vous démontrant que c'est important pour nous de connaître ces choses-là, que c'est pas juste pour des théologiens, mais c'est pour nous, les enfants de Dieu, juste du monde normal. Amen. Donc, la première chose qu'on veut voir, c'est dans Osée, chapitre 4 et le verset 6, il est écrit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si on ne connaît pas les choses concernant l'Apocalypse, on peut se faire séduire par des courants dans le monde. Il y a toutes sortes de courants. Avez-vous entendu parler de 2012? Nous sommes en 2012, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui pensent que la fin du monde va se passer en 2012. Je peux vous garantir que cette planète ne sera pas détruite en 2012. Savez-vous pourquoi? Et vous allez voir, je vais peut-être vous déranger ce matin, cette planète ne sera jamais détruite. Cette planète est éternelle. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Comme je vous dis, gardez vos questions jusqu'à la fin. OK? Mais on va voir ensemble, il n'y aura pas de fin du monde. Mais il va y avoir une fin du monde selon le monde méchant. Il va y avoir un changement. On va voir des belles choses ensemble tout au long de cette série. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre? Premièrement, c'est que mon peuple est détruit. OK, quand on n'a pas la connaissance, Dieu veut nous faire connaître des choses, comme ça on peut être mature, on peut savoir discerner qu'est-ce qu'on va entendre. Quand les gens sont tout énervés, ils disent c'est 2012, et il y a des gens sérieusement, vous allez sur YouTube, sont convaincus que la fin du monde c'est en 2012. Je peux vous dire, c'est pas vrai ça. OK, c'est pas vrai, c'est pas la fin du monde en 2012. Cependant, on va voir il y a plein de choses qui peuvent se produire en 2012, mais on peut être rassuré à ce niveau-là. Deuxième chose, dans l'Apocalypse, chapitre 1, au verset 3, il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Donc, quand on lit l'Apocalypse, on est heureux. Ou dans d'autres traductions, ça dit « béni ». Vous allez être béni et heureux. Mais souvent, avez-vous remarqué, les gens qui étudient l'Apocalypse, des fois, c'est des gens, ils semblent un petit peu, comme on dit en anglais, « spooky ». C'est la fin des temps. Ils sont comme ça. Puis on dirait pas qu'ils sont remplis de joie et heureux, mais c'est comme, ils ont peur. Ils font des réserves dans leur sous-sol. Ils ont plein de canages. Il y a plein d'affaires. Il y a toutes sortes de personnes. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On lit toute la Bible et on demeure équilibré. Savez-vous ça? C'est possible pour nous, enfants de Dieu, de connaître toute la parole de Dieu et ne pas tomber sur la tête. Vous allez voir ensemble. Puis je suis pas en train de ridiculiser les gens, mais ici, le fait de lire la parole de Dieu et cette prophétie procure la bénédiction pour notre marche chrétienne. Pourquoi? Parce que quand je connais mon héritage, moi, je sais que je suis béni. Je suis béni aujourd'hui et je vais être béni demain. Amen. La bénédiction, là, pour l'enfant de Dieu n'a pas de date d'expiration. Moi, je suis béni chaque jour de ma vie jusqu'à temps que je passe l'éternité avec mon Dieu et même à ce moment-là, je vais être béni. Amen. Ça, c'est pour vous, enfants de Dieu. Donc, ça, c'est une deuxième raison. Une troisième raison, c'est que ça procure l'espoir pour l'avenir. Et on va lire ensemble dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Si vous pensez que ce message, ça va être un message où vous allez être encouragé à rechercher une place dans une grotte ou une caverne pour aller vous cacher, pour survivre la tribulation, je peux vous dire, moi, je ne suis pas à la recherche d'une caverne ou une grotte. Je ne suis pas à une recherche d'une caverne ou une grotte, mais moi, je suis à la recherche d'un sauveur qui va m'enlever. Amen. C'est ça que je crois. Moi, je suis à la recherche de mon Seigneur et c'est là où je garde mes yeux. Je suis encouragé, je suis béni chaque jour de ma vie parce que le Seigneur a des choses en réserve pour moi. La quatrième raison, on va voir ensemble dans Tite 2 et le verset 11 à 14. On va lire ensemble dans la Bible du Semeur. Concernant l'équilibre. Une autre raison pourquoi c'est vraiment important pour nous d'étudier l'Apocalypse, c'est d'être équilibré dans notre vie chrétienne. Une des choses dans le monde chrétien, on a parfois la difficulté à être équilibré. Peu importe le thème qu'on va enseigner, que ce soit la guérison, que ce soit les finances, parfois il y a des courants, on va d'une extrémité à l'autre. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on soit dans le milieu, qu'on soit équilibré. Amen. Donc, même concernant les choses de la fin, il faut être équilibré. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, il est écrit, « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée. » Dites « équilibrée ». Juste et pleine de respect pour Dieu. Verset 13. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. Voyez-vous, un enfant de Dieu, que la révélation de Dieu est remplie d'espoir. Pas remplie de crainte quand on parle de l'Apocalypse, mais il est rempli d'espoir. Il se réjouit. Amen. La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Et là, verset 14, plutôt, pour accomplir des œuvres bonnes. On a été sauvés, rachetés pour accomplir de bonnes œuvres. Amen. Et une des choses que l'ennemi voudrait faire, c'est nous rendre déséquilibrés. Et là qu'on dise, bien, le Seigneur Jésus va revenir chercher son Église, donc dorénavant, on ne fera plus rien. Moi, je peux vous dire, mes parents, ils se sont mariés en 1971. Et quand ils se sont mariés avant cette date-là, il y avait des gens dans leur église qui disaient, « Ah ben, ça vaut même pas la peine de vous marier parce que le Seigneur Jésus va revenir chercher son église. Donc, mariez-vous pas, n'allez pas à l'école, ne faites pas de plan pour votre avenir, le Seigneur Jésus va revenir chercher son église. » Je peux vous dire, comme vous savez, mes parents n'ont pas écouté ces conseils-là et je suis bien content parce que je suis là. Hein? Mais ceci dit, on le sait que le Seigneur va venir chercher son église. Mais le Seigneur nous appelle à être équilibré et de ne pas arrêter de vivre. Ça, c'est une chose importante. Des fois, il y a des gens qui aiment tellement l'Apocalypse. Des fois, on voit les publications, surtout sur Facebook. C'est tous les clips sur l'Apocalypse, sur la fin du monde. Les gens trippent là-dessus. Pour une raison ou une autre, c'est correct. On a cet espoir. Si on se réjouit qu'on va être enlevé avant que ces choses-là arrivent, c'est bien, c'est merveilleux. Mais l'affaire est, c'est que si on s'empêche de vivre aujourd'hui parce qu'on dit que le Seigneur va venir chercher demain, ça c'est contre la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à être actifs jusqu'à temps que ce jour vienne. Et si vous avez du doute dans votre cœur, dans Luc 19, verset 13, ici ça dit « Faites des affaires », ça c'est en français courant, « Faites des affaires jusqu'à mon retour, soyez occupés jusqu'à temps que le Seigneur Jésus revienne chercher son Église ». On sait qu'il va revenir, mais jusqu'à ce temps-là, une des choses que Dieu nous appelle à faire, on continue comme s'il ne revenait jamais, mais on vit à chaque jour comme s'il revenait demain. Ça fait pas de sens peut-être pour vous, mais votre cœur doit être prêt. À chaque jour de votre vie, vous devez être prêt à ce que le Seigneur vienne vous chercher, mais en même temps, vous devez faire des plans comme s'il ne revenait même pas pendant votre vivant. Ça veut dire, vous préparez votre vie en conséquence. Vous allez à l'école, à l'université, vous faites ces choses-là, vous vous mariez. Vous avez des enfants, vous faites votre vie. Amen. Vous avez dit, mon Dieu, je ne pensais pas que ça pourrait être un message comme ça sur l'Apocalypse. Actuellement, on entend un prédicateur, il nous fait trembler dans notre siège. Non, on continue de vivre. Amen. Dieu veut ça. Il veut qu'on soit productif, qu'on porte beaucoup de fruits. Puis là, c'est écrit dans Marc 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est ça qu'on va faire dans cette église et c'est ça qu'on va continuer de faire. On n'ira pas se cacher dans une caverne, on ne fera pas des réserves souterraines. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Amen. On continue à être actifs pour le Seigneur, mais toujours gardant nos yeux sur le Seigneur, sachant qu'il peut revenir à n'importe quel moment, venir chercher son Église. Et là, même pendant que je dis ça, il y a des gens qui vont dire, oui, mais est-ce que le Seigneur va vraiment venir pendant notre vivant? Ça fait longtemps qu'on entend parler qu'il va revenir, même dans l'Église primitive, les gens pensaient qu'il était pour revenir un jour ou l'autre. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, dans 2 Pierre, chapitre 3, je vais vous inviter à tourner là, on va aller dans verset 3 à 8, dans français courant. Ici, on est encouragé ou on est averti de garder notre foi dans la parole de Dieu, de conserver cette foi dans le retour du Seigneur Jésus. C'est pas parce que ça fait longtemps qu'on a entendu dire qu'il était pour venir qu'on devrait se relâcher dans notre foi et cesser de croire. Des fois, il y a l'autre extrême, c'est qu'on ne croit même plus au retour du Seigneur Jésus. Et il y a des courants dans le monde chrétien où les gens disent, oh, finalement, il reviendra même pas. C'est vraiment spécial qu'on puisse vraiment tomber dans toutes sortes d'extrêmes. Non, nous croyons que le Seigneur Jésus va revenir. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit dans sa parole. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 8, il est écrit, « Sachez avant tout, je vous lis dans français courant, sachez avant tout que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous et diront, « Il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? » Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Ils oublient volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Remarquez ici, là, on voit ici, on est encouragé à croire la parole de Dieu. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. La terre a été séparée de l'eau et formée par l'eau. Et c'est également par l'eau, c'est celle de la grande inondation ou le déluge, si vous voulez, que le monde ancien a été détruit. Verset 7. Quant au ciel et à la terre actuelle, la même parole de Dieu les tient en réserve pour le feu qui les détruira. Ils sont gardés pour le jour du jugement et de la ruine des pécheurs. Mais il y a encore une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Voyez-vous? C'est que pour nous, quand on dit, ben, Seigneur revient bientôt, bien, pour nous, bientôt, c'est demain matin. Mais pour le Seigneur, c'est un peu différent. Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire? C'est croire sa parole. Ce qu'il a dit concernant cette terre va se réaliser obligatoirement. Tout ce que Dieu a dit dans le passé, c'est toujours réalisé. Et tout ce qu'il a prophétisé pour demain va se réaliser également. Savez-vous ça, enfant de Dieu? Amen. Donc, aujourd'hui, on peut s'approcher du thème de l'Apocalypse et savoir tout ce qu'il a dit va se produire. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne va pas juste se concentrer sur les choses négatives qui vont se passer dans le monde, mais on va se concentrer sur les choses positives qui vont nous arriver. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que le Seigneur a des grandes choses en réserve et parfois quand on parle de l'Apocalypse, les gens mettent juste l'accent sur les choses négatives, les cataclysmes, tout ça. Mais qu'est-ce qui me réjouit et notre bienheureuse espérance, c'est que le Seigneur nous réserve la gloire pour nous, les enfants de Dieu. Il nous réserve une protection surnaturelle. Il nous réserve la vie et la vie en abondance pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Maintenant. Qu'est-ce qu'on veut voir ensemble? Dans Marc, chapitre 13, et le verset 31-32, on va regarder ensemble maintenant la question. Est-ce que la fin du monde va se produire? Et même dans la parole de Dieu, nous voyons l'expression « fin du monde ». Mais quand nous prenons l'expression « fin du monde », ça se réfère à ce, pas la planète, dans le sens le monde, la planète, mais ça se réfère ici aux gens, la fin du monde actuel ou le système mondain. Comprenez ceci. On parle de la fin du système ou de la gouvernance du monde méchant, la fin du monde du mal. OK? Quand on parle de la fin du monde, c'est à ça qu'on se réfère. Donc, c'est une bonne chose que le mal soit tassé. Amen? Donc, c'est ça. On va voir ensemble dans Marc chapitre 13 et on va commencer au verset 31 jusqu'à 32. Il est écrit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Encore une fois ici, on est encouragé à croire la parole de Dieu. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Rappelez-vous ici, on parle ici dans le temps que Jésus était sur la terre. Là, je vais relire, je vais commenter. Le ciel et la terre passeront d'une condition à une autre. D'une condition à une autre. Mais mes paroles ne passeront point pour ce qui est du jour ou de l'heure, de son second retour. On parle de son second retour ici, de Jésus-Christ. Personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils. Ici, on parle du Fils incarné, quand il était sur la terre, mais le Père seul. Donc, premièrement, si quelqu'un vous dit que la fin du monde, c'est en 2012, vous faites certain que c'est pas à ce moment-là. Parce qu'on peut pas savoir le jour ou l'heure, on ne connaît pas, on ne peut pas connaître avec exactitude une date. Vous savez, l'année passée, en 2011, il y avait un prédicateur aux États-Unis, il a dit, la fin du monde, c'est au mois de mai en 2011. Je me souviens plus de la date, je pense que c'était le 21 mai, quelque chose comme ça. Mais c'était à la fin du monde, il y avait fait des bannières, je pense que c'est ça, hein? Est-ce que vous en rappelez? Je pense que c'était à ma fête. Le 21 mai. Puis là, c'était la fin du monde à ma fête. Wow! Puis là, on voyait ça, il y avait des bannières, des affiches partout sur l'autoroute, partout dans le monde. Les gens vendaient leur maison parce que la fin du monde, c'était telle date. Ça, c'est terrible. Ça, c'est le diable qui a séduit des gens. Et là, les gens ont perdu leur argent, ils ont perdu tout ce qu'ils ont bâti dans leur vie. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont cru un faux prophète. Donc, si vous entendez quelqu'un dire un jour, telle date, c'est la fin du monde, là, vous faites savoir c'est un faux prophète. Donc, gloire à Dieu, je vous enseigne rien pour la majorité, mais c'est bon qu'on puisse le savoir. Une autre chose que, comme on a dit, la fin du monde, ça ne se réfère pas à la planète. Comme j'ai dit, la terre est éternelle. Et on peut voir dans le psaume 104 et le verset 5, le psaume 104. Ici, je peux déranger un petit peu la théologie classique pentecôtiste. Parce que dans le mouvement Pentecôte, les gens ont été beaucoup enseignés que la terre va être totalement détruite. Mais en fait, on parle ici d'un changement de condition. Passé, il va y avoir certainement une rénovation par le feu, comme nous avons vu. Il va y avoir une rénovation, le mal, toutes les mauvaises choses vont disparaître de cette terre. Il va y avoir une rénovation complète et glorieuse. Mais on doit comprendre que la terre elle-même va continuer. Et quand Dieu a créé la terre, il n'a pas fait d'erreur. Comprenez ceci. Quand Dieu a créé la terre, là, il y avait un but et il y avait un plan pour la terre. Donc, ce but-là et ce plan-là va s'accomplir. Dans le psaume 104, verset 5, il est écrit, « Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. » Dans le psaume 104, verset 5, dans le psaume 119, verset 90, cette fois-ci, il est écrit, « De génération en génération, ta fidélité subsiste. » Est-ce que Dieu est fidèle encore aujourd'hui? Amen. Ensuite, il est écrit, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Elle demeure ferme. Ou dans Bible, tu demeures, ça dit, elle subsiste en parlant de la terre. La terre subsiste. Et dans Matthieu, chapitre 5 et le verset 5, il est écrit ici, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Nous sommes appelés, nous les humbles, nous sommes là et nous croyons que nous allons hériter la terre, selon la parole de Dieu. Dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » C'est merveilleux. La terre en héritage. Ça va à l'encontre un petit peu des choses qu'on a entendues des fois dans le cercle chrétien. Je me souviens, moi, j'avais peut-être 15 ans à l'époque, et j'étudiais l'Apocalypse. Comme je vous ai mentionné la semaine passée, il y avait ce sujet-là qui m'intéressait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un des premiers sujets que j'ai vraiment étudié à fond quand j'étais très jeune. J'avais des livres d'études et je passais mon été à étudier les prophéties de Daniel, les prophéties de l'Apocalypse, Isaïe, il y a toutes sortes de passages sur l'Apocalypse ou sur la fin des temps qu'on peut étudier. Puis ça m'intéressait beaucoup. Et dans mes études, j'ai découvert ça, que la terre était comme ça, elle était pour subsister. Et j'ai parlé avec un évangéliste. Et puis là, je racontais qu'est-ce que je venais de découvrir. Puis mon petit gars, t'es dans le champ, là. Non, c'est pas ça. Mais des années plus tard, je crois encore ça aujourd'hui. Je crois encore ça parce que la Bible est claire là-dessus. Si Dieu a un plan, si Dieu a un dessein, il va l'accomplir. C'est pas à cause les hommes ont péché que ça va arrêter. Qu'est-ce qui m'a vraiment encouragé par la suite, c'est que j'ai rencontré plein de prédicateurs par la suite qui étaient d'accord avec moi. Je me disais, c'est bon, je suis pas tout seul sur la planète qui croit ça. Amen. Donc, on n'est pas tout seul à croire ça, que la terre va être rénovée par le feu, qu'elle ne sera pas totalement détruite, mais qu'elle va être seulement rénovée. Jusqu'à date, vous dites, OK, ben c'est bon, au moins je peux savoir, il n'y a pas de fin du monde pour cette année. Ou peut-être, si une fin du monde, c'est juste une fin du monde mauvais, mais c'est pas la destruction totale de la planète. OK? Donc, vous allez peut-être dire, OK, mais est-ce qu'on peut voir des signes présentement dans notre monde qu'on est vraiment à la fin des temps? Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir? Et on va voir ensemble certains signes. Je vous invite à tourner dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, on va regarder ensemble des signes de la fin des temps. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous réjouir. Ça va nous réjouir parce qu'on va voir le Seigneur va revenir chercher son Église. C'est merveilleux. Les signes de la fin des temps avant l'enlèvement de l'Église ici. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Dans 2 Timothée chapitre 3, et on va commencer au premier verset, et je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. Comme vous prenez le temps de vous exposer à cet enseignement-là, moi je crois que ça va vous aider dans votre vie chrétienne. Vous allez avoir de la stabilité au niveau de vos croyances, au niveau des choses de la fin des temps. Puis c'est certain qu'on ne pourra pas prendre 18 heures à l'Église pour vraiment creuser dans chaque prophétie, mais vous allez avoir un survol pour une connaissance de base pour vous aider et être équipé pour savoir comment répondre quand on vous pose des questions. Et vous allez en même temps avoir la connaissance pour être rempli de foi et d'espoir. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, il est écrit, « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. » Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ou dans Louis II, ça disait, « Reniant ce qui fait la force, détourne-toi de ces gens-là. » La première chose qu'on veut voir, un des signes de la fin des temps, c'est premièrement qu'il va y avoir un camp dans le monde religieux, un camp dans l'apostasie, où les gens ont quitté la véritable foi. Donc, dans notre monde religieux qu'on voit autour de nous, est-ce que nous avons vu, est-ce que nous pouvons voir des gens qui ont quitté le chemin de la vérité dans le Seigneur? Absolument, ça c'est une des choses. Je veux relire cette fois-ci, mais en commentant, ça dit, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Ici, ça nous parle, quelle sorte de temps difficile? Spirituellement, ça va être difficile. On va devoir se battre pour avancer avec le Seigneur et on connaît le combat de la foi, c'est le combat des victorieux. Les hommes, ici ça nous parle au verset 2, les hommes dans l'Église, là, dans le monde religieux, seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse, ils n'auront pas d'égard pour leurs parents, ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Je peux vous dire, je crois que c'est la semaine passée, j'ai vu ça. Il y a deux pasteurs que j'ai connus, je ne vous dirai pas où, mais deux pasteurs que j'ai connus ont été séduits justement par un esprit de l'apostasie. Ces gens-là qui aimaient Dieu, que j'ai connus, que j'ai même passé en entrevue à la télévision, là, tout d'un coup, ont commencé à mettre le sacré de côté et commencé à vouloir justement entrer dans la société pour évangéliser, mais comme il est écrit ici, ils seront dépourvus de respect pour ce qui est sacré. En tant que pasteurs, ils ont mis de côté le respect même pour l'office dans lequel ils étaient, et puis là, ils ont dit, on va aller évangéliser dans les bars. Et puis là, au lieu de comprendre que Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté, ils ont commencé à vouloir évangéliser dans les bars. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux frères-là, qui aimaient le Seigneur, deux pasteurs, les deux sont mariés avec des épouses qui aimaient le Seigneur, des enfants chrétiens, tout ça. Là, ils évangélisaient dans les bars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les deux ont commencé à chuter dans le péché dans les bars. Commençaient à prendre de l'alcool en évangélisant. Ont commencé à fumer. Commençaient à se faire des tatous à grandeur du corps. Et là, ils ont lu des livres intellectuels contre l'existence de Dieu. Et ils ont même renié l'existence de Dieu. Ça, c'est l'apostasie. Où on veut être tellement cool, on veut tellement faire plaisir aux masses, qu'on va même se diminuer au point où un homme de Dieu va aller dans les bars pensant qu'il fait le travail de Dieu. Mais quand on est rendu que l'Église locale pense que c'est correct qu'un pasteur s'en va évangéliser dans les bars, et là qu'il quitte sa femme, qu'il laisse ses enfants et qu'il renie Dieu, on a un problème, hein? C'est un problème sérieux. Mais quand j'ai vu ça, là deux semaines, je crois, j'ai vu sur un de mes amis Facebook, rendu comme ça, le corps tout tatoué. Il renie Dieu, il écoute la musique de Satan, là, la musique hell. Vous savez ce que ça veut dire, hell? Un pasteur qui est rendu, qui écoute la musique du monde comme ça, puis qui aime la musique satanique. on a un méchant problème dans le corps de Christ. Un méchant problème. Verset 3, sans cœur, sans pitié, calomniateur. Ça veut dire que dans le corps de Christ, dans le monde, il va y avoir beaucoup de calomnies. Les gens vont parler les uns contre les autres. Dans le monde religieux, il va y avoir beaucoup de personnes. Ils vont parler. Incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Tellement de choses. Au verset 5, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Connaissez-vous des gens qui vont à l'église, sont attachés d'une façon extérieure, ils vont à l'église, sont attachés à la religion? Mais remarquez que ça dit, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils vont vouloir renier les choses qui nous donnent la force. Et quelles sont ces choses-là? Les choses du Saint-Esprit. Ils vont mettre de côté le Saint-Esprit pour plaire aux masses. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans les temps de la fin? On va voir des églises qui vont commencer à croître, mais c'est des gens qui sont là et ils vont parce que, bien, c'est respectable. C'est respectable de venir ici. Et puis, je suis pas vraiment obligé d'être engagé. Et on met de côté le Saint-Esprit pour ne pas déranger aux gens. Ça, c'est un signe de la fin des temps, enfant de Dieu. Ça dit un camp dans l'apostasie. Où on veut juste le bling-bling, méga-bling, que ça soit beau. Waouh, c'est beau. Mais il n'y a pas de puissance, pas d'onction, pas de vie changée, transformée. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, ça dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. » Beaucoup de personnes qui vont s'élever, ils vont même dire, « Moi, on est Dieu, ou je suis Dieu. » Ça, c'est un signe aussi, des temps de la fin. Une deuxième chose, heureusement, il n'y a pas juste un camp dans l'apostasie. Il y a également un camp dans l'Esprit de Dieu. Il y a également un camp où les gens sont en amour avec Dieu et où il y aura l'effusion du Saint-Esprit. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui, nous sommes dans ce camp-là aujourd'hui, enfants de Dieu. Nous sommes dans ce camp où on a soif pour plus de Dieu, où on veut l'effusion du Saint-Esprit, non seulement où on y croit, mais on dit « Oui, Seigneur, à chaque fois que nous prions de l'autre côté à ta fille-là, Seigneur, viens nous visiter par ton Saint-Esprit. » C'est ça qu'on veut, on veut pas de la religion morte, on veut pas juste performer pour toi, mais Seigneur Dieu, on veut être rempli de ton Saint-Esprit, on veut être comme des éponges de ton onction, rempli de ton onction, c'est notre cœur, c'est notre désir. Ça, c'est un des signes de la fin des temps, c'est qu'il va y avoir une effusion du Saint-Esprit. Dans Actes, chapitre 2, versets 16 à 18, ça dit, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Ça, c'est merveilleux. Donc, on veut pas se laisser décourager par l'apostasie, par ces prédicateurs qui prêchent des messages qui ne dérangent jamais personne. Mais on veut être rempli de joie, rempli d'espoir, sachant que le Seigneur va déverser son esprit sur toute chair. Et croyez-vous ce matin que le Seigneur peut déverser son onction sur vous, sur votre vie? Amen. Moi, je crois et moi, je suis là et je dis, oui, Seigneur, fais-le parmi nous. Déverse son Saint-Esprit parmi nous. On veut voir ta gloire. Et moi, je crois qu'il y a un réveil pour les temps de la fin. Il va y avoir un réveil. Et moi, je peux vous dire, je m'attends de voir la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Et je sais que ça va être merveilleux. Je sais que ce réveil va ramasser des gens partout sur les continents où les gens vont se convertir vers Dieu. Ils vont se tourner vers Dieu, vont se convertir à ce bon message. Et puis, ils vont décider, je donne ma vie au Seigneur Jésus. Et on va voir ce réveil-là, moi je crois, pendant notre vivant. En tout cas, ma foi est là pour voir ce réveil-là. En France, voir des masses venir au Seigneur Jésus qui vont se donner. Ça, c'est un signe. Mais on va dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour voir ces choses-là? Faut croire et relâcher notre foi pour voir des masses sauvées. Des masses qui vont se tourner vers Dieu. Amen. Mais ça, c'est un des signes de la fin des temps. L'effusion du Saint-Esprit. Une autre chose qu'on veut voir ensemble, c'est une accélération dans la proclamation de l'Évangile. C'est un autre signe pour nous. Une accélération dans la proclamation de l'Évangile. Dans Matthieu 24, verset 14, ici on sait que ce verset-là nous parle aussi jusqu'à la fin des temps complètement, mais on peut voir le commencement aujourd'hui. Dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Je vais relire. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Comme je vous dis, on est juste au début. on n'a pas fini encore de voir ce message proclamé sur la terre, mais on peut voir déjà que le Seigneur a permis qu'on découvre la technologie pour prêcher l'Évangile. Une des façons, certainement, c'est par les médias, n'est-ce pas? Par les médias, par la télévision, par l'Internet, par la radio, nous pouvons prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour ça aujourd'hui, même si on est là ensemble ici au Canada, mais on a des amis en Europe, on a des amis en Afrique qui écoutent les messages. Pourquoi? À cause du Seigneur a permis ce véhicule-là pour que le message soit répandu aux quatre coins du globe. C'est merveilleux. Dieu nous a donné ce privilège-là. Et ça, c'est un des signes. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je me réjouis de ces choses-là. Et cette semaine, je me réveille très de bonne heure de ce temps-ci, des fois 3-4 heures du matin. Mais cette semaine, vers l'heure de 4 heures, j'étais là, juste couché dans mon lit. J'étais j'étais réveillé évidemment, là, mais j'étais là et je ressentais la présence de Dieu venir sur moi d'une façon très forte. J'étais béni, couché dans mon lit tout seul. Ma femme même, j'ai dit, est-ce que tu as ressenti la présence de Dieu dans notre chambre ce matin, comme on était là? Elle dit, oui, elle dit, j'écoutais de la musique, moi, sur mes écouteurs. Elle écoutait du Jesus Culture, quelque chose comme ça. Elle écoutait de la musique, mais moi, j'étais là, couché sur mon lit, et pendant que j'étais là, j'étais tellement béni tout seul, mais ma femme était là, mais j'étais tellement béni parce que j'ai réalisé le privilège qu'on a, que le Seigneur nous donne de prêcher son Évangile. Puis j'étais là, et comme le Seigneur me visitait juste par sa douce présence, c'était pas un vent impétueux, puis juste sa douce présence qui était là. Je peux vous dire, j'étais couché, puis là, je me demandais, je disais, Seigneur, mais pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi c'est nous, Seigneur, que tu nous appelles à rejoindre un peuple francophone? Pourquoi? Et certainement, il y a d'autres ministères qui sont appelés à le faire, mais pourquoi même moi? Parce que, comme vous savez, Sphinx, c'est pas un nom super francophone. Quelqu'un qui a fait toujours des études en anglais, Pourquoi moi, même en français, je suis un Québécois, évidemment, comme vous savez. Je parle en québécois. Pourquoi même m'appeler à répondre à cet appel-là? Et comme j'étais couché sous mon lit, juste la présence de Dieu, puis cette révélation du privilège et l'honneur qu'on a de servir Dieu. Les larmes coulaient sur mon oreiller, tellement la présence de Dieu était là. Et je sais que Dieu nous appelle ensemble, corporativement, à répondre à son appel et dire, Seigneur, c'est les signes de la fin des temps, on va répandre cette bonne nouvelle aux quatre coins du globe. Ensemble, on va travailler pour que ce message de ce bon Dieu soit entendu aux quatre coins du globe. Et ensemble, son onction, c'est son onction qui va nous propulser. C'est absolument impossible de faire qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire. Quand c'est tellement grand, quand c'est tellement comme, wow, comment est-ce qu'on va faire? Bien, ça veut dire que c'est parce que c'est pas à cause de nous, c'est à cause de Dieu. C'est Dieu qui va le faire. Une des choses, comme j'ai enseigné à l'Institut biblique, quand les choses vont mal dans un ministère, le pasteur doit se regarder et dire « qu'est-ce que je fais de pas correct? » Donc, c'est toujours la faute du pasteur. Mais quand ça va bien, c'est jamais à cause du pasteur, c'est à cause de Dieu. Parce que c'est Dieu qui bâtit son Église. Jésus a dit c'est moi, je bâtis mon Église. Donc, Jésus bâtit son Église. Puis, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que chaque pasteur cherche la face de Dieu pour savoir comment coopérer avec le Saint-Esprit. Quand les fruits viennent, c'est toujours à cause de Dieu, c'est jamais à cause du pasteur, parce que le pasteur ne peut pas convaincre personne d'adopter la vision. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Donc, c'est toujours gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand ça va mal, c'est la faute de l'homme, parce que c'est jamais Dieu qui est coupable. Donc, comprenez? C'est jamais à cause de l'homme. Mais quand on voit la main de Dieu, quand on voit la provision de Dieu, quand on voit le Seigneur qui propulse des choses, des ministères, c'est toujours gloire à Dieu et toute la gloire lui revient. Et comme on sait aujourd'hui, moi je sais que le Seigneur n'a pas fini d'agir parmi nous. Il va continuer à travailler dans nos cœurs. Il va continuer à nous garder cette vision devant nous qu'il y a des masses qui sont là, qui attendent qu'on prêche l'Évangile de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle. Amen. Il y a des choses qu'on veut voir concernant notre dispensation. Présentement, on vit dans la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Église. Présentement, quand on entend le message du salut, on peut dire « Oui, Seigneur, je te reçois, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et on peut juste dire « Oui, Seigneur, je te reçois » et on est sauvé, on passe de la mort à la vie. Mais cet âge-là va se terminer un jour. Et l'âge de la grâce se terminera par le premier retour de Christ dans les airs. Quand le Seigneur va venir chercher son Église, il ne viendra pas sur la terre littéralement la première fois, mais il va juste venir dans les airs chercher son Église, le premier retour de Christ qui déclenchera ensuite la première résurrection des saints déjà au troisième ciel. Vous allez voir, les saints qui sont déjà au troisième ciel, on parle d'Abraham, on parle des saints de l'Ancien Testament, eux sont déjà au ciel, mais ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Et ensuite, nous, les vivants, on va être glorifiés. On va voir ensemble ici, dans 1 Thessaloniciens, on va voir notre bienheureuse espérance, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. C'est ça qui nous remplit d'espoir et de joie. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et vous allez dire, ah, mais c'est spécial entendre parler de ça. Que Jésus va venir chercher son Église, mais quelle sorte de doctrine? Est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Certainement pas. Ça fait longtemps qu'on entend parler. Hein? Ça fait longtemps qu'on entend parler. Mais vous avez dit, oui, mais est-ce qu'on peut vraiment savoir que ça va arriver bientôt? Ou c'est encore peut-être pour dans 200-300 ans? Moi, je peux vous dire, je dois vous dire certaines choses qui me laissent vraiment croire que c'est prochainement que le Seigneur va venir chercher son Église. Dans le monde du Nouvel Âge, présentement, il y a des gens qui écrivent des livres qui disent, voici, là, je vous donne l'explication, il y a des gens qui disent que des extraterrestres leur communiquent des messages. Okay? Dans le Nouvel Âge, présentement, il y a des gens qui écrivent des livres et qui expliquent que prochainement, des extraterrestres vont venir sur la Terre pour prendre tous les arriérés spirituellement et ils vont prendre ces personnes-là, les emmener sur d'autres planètes pour les recycler. Et là, ces gens-là, là, qui croient vraiment, ils écrivent des livres, mais ils disent même qu'ils n'ont pas de contrôle pendant qu'ils écrivent. Ils écrivent des bouquins là sur la fin des temps, là, mais que bientôt, les ovnis vont venir chercher les arriérés spirituellement. Et puis là, on voit plusieurs livres comme ça qui circulent, qui ont été écrits, qui préparent les masses à croire qu'est-ce qui va se passer bientôt. Si l'ennemi prend la peine en ce moment de faire en sorte que ces gens-là qui pensent qu'ils écrivent par la puissance d'un extraterrestre, mais en fait, qui est par des démons, ces gens-là sont animés par des mauvais esprits, ils écrivent des livres comme ça, mais ils préparent déjà des mensonges pour expliquer qu'est-ce qui va se passer prochainement. C'est pour ça, dans le monde dans lequel nous vivons, vous entendez parfois parler des ovnis, des extraterrestres. Il y a même eu des sectes qui ont été établies à cause des extraterrestres, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de ces sectes-là qui existent, les gens qui pensent, qui croient dans les extraterrestres, toutes ces choses-là. Mais si l'ennemi prend la peine aujourd'hui de séduire les masses à croire, il y en a du monde vraiment intelligent qui croit là-dedans, qui croit dans les extraterrestres, où sont là, comme, je suis pas sûr. Mais c'est parce que le Seigneur va bientôt venir chercher son Église. Et là, le diable, il prépare les mensonges. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 et verset 17, il est écrit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Remarquez encore, c'est la parole du Seigneur. Dieu a toujours dit la vérité jusqu'à la date, il a toujours dit vrai. Donc moi, j'ai la confiance que tout ce qu'il a dit pour l'avenir, il va le réaliser, n'est-ce pas? Amen. Donc voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement ou le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, ici on parle des saints du passé, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ici on parle du retour de Jésus dans les airs. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour le retour de Christ, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Et ça, c'est sans mourir, là. C'est-à-dire, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur ici et dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc ici, nous parlons des retrouvailles au troisième ciel, où l'Église, les saints de l'Ancien Testament et les saints qui sont morts pendant notre vie, okay, mais tous ceux, les saints du passé et les croyants d'aujourd'hui, on va être réunis avec le Seigneur dans le troisième ciel et on va faire le party. Et c'est ça que Dieu dit. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur va venir chercher son Église? Pourquoi pensez-vous que le Seigneur va venir chercher son Église? On va voir ensemble. Je vous laisse lire un autre verset. Ça ici, c'est la première mention de l'enlèvement dans Jean 14, verset 2 à 3. Jean 14, verset 2 à 3, Jésus parlait, il disait ici, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Au verset 3, un petit peu plus loin, c'est dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, des gens qui sont avec le Seigneur sont passés par la mort, mais le Seigneur nous révèle dans sa parole, à la fin des temps, avant que les choses viennent terribles sur la terre, avant que Dieu déverse sa colère sur l'humanité rebelle, il va venir chercher son Église. Et pourquoi? Le but, moi, je crois certainement, c'est pour nous protéger des choses qui s'en viennent sur la terre. Donc, l'enfant de Dieu n'a pas besoin de craindre le jugement de Dieu. On n'a pas besoin de craindre et marcher dans la crainte. Non, on peut être rempli d'espoir, sachant que notre bon Dieu va prendre soin de nous. Amen. Amen. Ici, on voit un autre texte dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. C'est dit, « Pour ce qui concerne l'avènement ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. » Donc, ici, on va vivre une réunion avec le Seigneur. Je peux vous dire, il y a toutes sortes de positions dans le monde chrétien, et je peux vous dire, je respecte votre droit de croire autre chose concernant l'enlèvement. Il y a des gens qui croient que l'Église va passer à travers tout l'enlèvement, toute la tribulation, okay, une période de jugement sur l'humanité. Il y en a qui croient ça, et il y en a d'autres qui pensent que c'est à mi-chemin. Je respecte votre droit de croire ce que vous croyez, ok, mais respectez le mien, parce que moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois autrement, et on se respecte dans l'amour du Seigneur. Mais une des choses qu'on veut voir, il y a l'enlèvement de l'Église, et ensuite, il y a la glorification des corps mortels. Présentement, ok, vous êtes un esprit, vous habitez un corps et vous avez cette âme, ok, votre pensée, votre volonté, vos émotions. Ok, c'est qui nous sommes. Nous sommes une créature en trois dimensions. Mais comme vous savez, présentement, on vit dans un corps de péché. Au ciel, on n'aura pas ce corps de péché-là, on n'aura pas un corps malade, on n'aura pas un corps ridé, on n'aura pas de malaise au ciel, n'est-ce pas merveilleux? Non, notre corps va être glorifié. Donc, on vient de voir ici le texte sur l'enlèvement et ça dit qu'on va être changé. Regardons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? On est juste en train d'établir le schéma ici concernant les prophéties qui concernent l'eschatologie ou l'étude de la fin des temps. On est en train de juste bâtir le schéma et un pas après l'autre, on va marcher ensemble là-dedans et vous allez voir tout ce que le Seigneur nous réserve. C'est merveilleux. Donc, dans 1 Corinthiens 15, verset 42 à 43, il est écrit, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. » Au verset 51 maintenant, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. » N'est-ce pas merveilleux? « Nous ne mourrons pas tous. » Mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, les vivants ici, nous serons changés, nous serons transformés, nous serons glorifiés. Verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Présentement, j'habite dans un corps mortel. Mais gloire à Dieu, le Seigneur va le changer. Amen. Il va changer, je vais habiter dans un corps immortel pendant l'éternité. Et si vous êtes un enfant de Dieu, et si l'enlèvement de l'Église se produit pendant votre vivant, vous allez vivre ce miracle également. Vous allez être enlevé avec le Seigneur va venir vous chercher, vous allez être enlevé dans les airs, et vous allez changer, transformer. Vous avez dit, mon doux, c'est tout un scénario. Crois-tu vraiment que le Seigneur Jésus va venir chercher son Église? Absolument, parce que je crois toute la Bible. Je crois le début jusqu'à la fin. Et il y a des gens qui vont étudier Nostradamus, mais j'aime mieux étudier les révélations de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit vrai, elle a toujours dit vrai, elle a toujours été prouvée comme étant vraie. Et moi, je crois la parole de Dieu. Et Dieu l'a dit simplement. Pourquoi pensez-vous que ces saints-là, qui sont déjà au troisième ciel, pourquoi pensez-vous qu'ils doivent revenir sur la terre, être ressuscités pour vivre la réunion? Des fois, on peut se poser la question, mais on voit ici les saints, ok, Abraham ou les gens qu'on a aimés dans notre vivant, qui sont morts, qui sont déjà dans la présence de Dieu, mais pourquoi ils doivent redescendre pour être ressuscités, comme c'est écrit dans la parole de Dieu? Mais comprenez que les gens qui sont présentement au ciel ne sont pas en trois parties, ne sont pas en trois dimensions en ce moment. Ils ont juste leur esprit et l'âme, mais ils n'ont pas leur corps glorifié encore. Donc, ils doivent redescendre, Dieu va refaire leur corps, ok, mais le glorifier en même temps, et là, on va vivre le party ensemble, tout le monde glorifié. C'est merveilleux, on n'aura pas de rides. Madame, vous n'aurez pas besoin de vous maquiller, vous allez glorifier. Merveilleux. Dans 1 Corinthiens 15, verset 50, ça dit « La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Votre corps ne peut pas hériter présentement le royaume de Dieu. » C'est pour ça qu'il va avoir cette résurrection-là. Nos corps glorifiés immortels. Si vous dites « Ouais, mais ça ressemble à quoi ça, un corps glorifié? » Des fois, vous pensez peut-être à des mannequins. Vous dites « Peut-être ça va être comme ça, je vais avoir l'air super beau demain. » Bien, on va voir ensemble votre corps glorifié. Êtes-vous intéressé de savoir à quoi vous allez ressembler? Et des gens, des fois, qui me disent, « Ouais, mais pasteur, est-ce que si admettons, je suis enlevé, là, puis on se voit pas pendant un temps, mais tu sais, moi, je suis au ciel, est-ce que tu vas me reconnaître au ciel? » Mais je peux vous poser la question, si je déménageais au Texas, puis vous habitez au Québec, puis on se rejoint à New York City, allez-vous me reconnaître? Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a juste déménagé d'endroit, mais on vit une glorification et on va quand même se reconnaître au ciel. Dans Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21, il est écrit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation. » Présentement, votre corps, là, c'est un corps de votre humiliation. Vous savez pas, hein, mais c'est ça. En le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, votre corps glorifié va être comme le corps du Seigneur Jésus glorifié, qui est déjà glorieux. Donc, ce corps-là, comme quand vous lisez la Bible, on prendra pas le temps de lire tous les versets, ça serait trop long, mais ce corps-là va pouvoir manger. C'est pour ça que vous pourrez aller aux noces de l'agneau et manger un festin. Imaginez, des fois on pense que le ciel ou notre temps avec le Seigneur, on va être comme les anges, on flotte sur les nuages. Hein, vous voyez ça, les publicités, le papier de toilette, là? Vous voyez ça, ou le Kraft Philadelphia Cheese, là? Puis là, vous voyez ça, un monsieur musclé comme ça, puis là, c'est juste des nuages, puis des petits anges qui flottent partout. Et là, on se dit, bien, ça va être ça, notre corps glorifié. Non, notre corps glorifié, ça ne sera pas ça. Mais ça va être un corps où vous pourrez manger du Philadelphia Cream Cheese. Parce que vous pourrez manger. Vous pourrez apparaître également et disparaître, comme ça. Pouvoir apparaître et disparaître. Ce corps-là va pouvoir passer à travers les murs. Vous lirez l'histoire de Jésus, il passe à travers les murs, pas de problème. Pouvoir monter au ciel et redescendre sur la terre. Finalement, notre voyagement, là, ça va être beaucoup plus facile. On va pouvoir voyager facilement, c'est merveilleux. On n'aura pas besoin de payer de billets d'avion pour voler dans les airs. Gloire à Dieu pour ça. Bon, là, vous allez dire, OK, c'est bien, c'est la parole de Dieu, on voit qu'on va être enlevé dans les airs avec le Seigneur, mais quel est le but de l'enlèvement? Bien, pour répondre à cette question-là, faut comprendre quel est le but de la tribulation. Je me suis référé juste rapidement à la tribulation. OK, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que la tribulation, il va y avoir 7 ans de tribulation sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Il y en a qui vont dire différemment, on se respecte, mais je suis pas en accord, et eux sont pas en accord avec moi. OK? Mais on s'aime quand même. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on veut comprendre? Le but de l'enlèvement, c'est, premièrement, on doit comprendre le but de la tribulation, et la tribulation, c'est un temps où Dieu va déverser sa colère sur l'humanité rebelle qui voulait rien savoir de Dieu. Il va dire, ça suffit, maintenant, Vous allez voir c'est quoi vraiment votre gouvernement humain, mais sans la présence de l'Église, qui est le Saint-Esprit, sans cette bonté de Dieu qui est présentement sur la terre, le sel de la terre va être enlevé, et là, qu'est-ce qu'on va voir? Il va y avoir ce déversement de la colère de Dieu sur l'humanité. Là, on peut répondre à la question, le but d'enlèvement, bien, c'est d'épargner son épouse, c'est d'épargner ses ambassadeurs sur la terre. Savez-vous que les pays, typiquement, dans le monde dans lequel nous vivons, quand un pays va attaquer un autre pays, typiquement, le pays qui va attaquer va faire venir ses ambassadeurs à la maison. Amen? Est-ce que ça fait du sens, faire venir nos ambassadeurs? On dit maintenant, c'est temps de revenir à la maison parce qu'on va attaquer ce pays-là. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire, qui est plus intelligent que les êtres humains, avant de déverser sa colère sur l'humanité, il va rappeler les siens auprès de lui pour les épargner de son jugement qui s'en vient sur les rebelles. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas les rebelles. C'est pour ça que pour moi, l'Apocalypse ne me fait pas peur, parce que moi, je lis les portions, pour moi, que je chéris, là, c'est les portions où je vais être protégé, c'est la portion où je vais célébrer le Seigneur aux noces de l'agneau, c'est lorsque je vais goûter à la bonté, je vais être dans un corps glorifié, je vais passer à travers les murs, je vais manger plein de fromage cottage, cream cheese. C'est ces choses-là qui m'attendent, donc je n'ai pas de crainte dans mon cœur, sauf que j'ai une crainte du Seigneur, un respect pour lui. Amen. But de la tribulation, c'est ça, épargner son épouse. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il est écrit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Êtes-vous son ambassadeur aujourd'hui? » Oui, Vous êtes son ambassadeur, donc moi je sais que le Seigneur va venir nous chercher. Dans le psaume 100 et le verset 3, il est écrit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Est-ce que Dieu va déverser sa colère sur son peuple? Non, moi je ne crois pas ça. Il y en a qui vont dire « Oui, mais. » Dans Jean 16, verset 33, il est écrit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » Dites « tribulations ». Vous aurez, c'est prophétiquement dit, vous aurez, vous les enfants de Dieu, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ici, ce texte-là est clair, nous aurons des tribulations dans le monde. Nous sommes présentement dans un système mondain et nous en vivons. Ici au Canada, comme le pasteur Jérémie a prêché la semaine passée, les sortes de tribulations, c'est les persécutions ou les attaques de l'ennemi dans nos pensées. Ici au Québec, c'est vraiment ça. C'est plus au niveau de nos pensées où l'ennemi nous fait accroire toutes sortes de mensonges pour nous garder vers le bas, pour nous isoler du corps de Christ, pour qu'on soit infidèle au Seigneur, toutes sortes de choses. L'ennemi vient nous attaquer à ce niveau-là. Ça fait partie certainement de la persécution ou les tribulations qu'on peut vivre. Et dans d'autres pays du monde, il y a des gens qui vivent des choses terribles dans le monde. Des tribulations, certainement, ça se passe dans le monde. Mais là, vous allez dire, oui, mais comment maintenant réconcilier ce verset-là avec ce que tu viens de dire, que le Seigneur va venir nous épargner les tribulations? Bien, en fait, il y a une vaste différence entre les tribulations qu'on peut vivre à cause on vit dans le monde qui est déchu. Il y a une vaste différence entre les tribulations reliées à notre existence dans ce monde et la tribulation que les gens vont vivre sur la terre à cause du déversement de la colère de Dieu sur eux. Il y a une grande différence entre les deux. Pour moi, c'est impossible pour moi de saisir que ce Dieu, le Créateur de l'univers, qui m'a aimé tellement, qui m'a envoyé son Fils pour que je sois sauvé, que je sois racheté, pour que je sois guéri, pour que je sois dans la joie et la vie en abondance, qui, par la suite, déverse son jugement sur moi. C'est impossible pour moi de croire ça. Pourquoi? Vous avez dit, oui, mais pourquoi? Parce que l'Église n'est pas destinée au jugement, selon la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, il est écrit très clairement, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. 1 Thessaloniciens 5, 9, ça dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Et vous savez, le mot salut nous parle de délivrance. L'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, nous sommes appelés à être délivrés des œuvres de Satan. Amen. Et nous sommes appelés à être délivrés et vivre le plein salut en Jésus. Jean 5, 24 maintenant. Jean 5, verset 24, il est écrit, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Et vous dites tous, « Amen, je crois ça. » Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. L'enfant de Dieu ne vient point en jugement. Amen. 2 Pierre 2,9, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis. » C'est les injustes qui sont punis, pas les enfants de Dieu, au jour du jugement. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à date? 2 Thessaloniciens 2,7, « Le mystère de l'iniquité ou des fausses doctrines qui circulent agit déjà. Il faut seulement que celui, en parlant de l'Église, qui le retient, qui retient le mal, encore est disparu. » Dieu attend, il veut prendre son Église avant de déverser sa colère sur l'humanité rebelle. Et là, il y a des gens qui ne sont pas en accord avec moi, puis comme je vous dis, c'est correct, on peut s'aimer quand même. Si vous croyez que vous allez passer à travers la tribulation, bien que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne sa grâce. Mais moi, je pense que vous allez voir que le Seigneur va venir vous chercher avant, puis vous allez être content d'être dans le party avec nous. Amen. Mais on vous aime quand même, puis si vous voulez faire des réserves, puis creuser un gros trou dans votre cour en arrière, il y en a qui ont fait ça, hein, vous savez, mais on vous aime quand même, puis il n'y a pas de problème. La tribulation. On va parler maintenant juste un petit peu, quelle est cette tribulation-là qui s'en vient sur l'humanité? On peut se réjouir quand on voit, il y a des choses terribles qui vont venir sur cette terre, sur cette planète. Mais nous, pendant ce temps-là, l'Église vit des choses merveilleuses. Juste vous donner rapidement un survol de la tribulation. C'est une période décrite comme étant la 70e semaine de Daniel dans Daniel chapitre 9. Versets 26 à 27, on ne prendra pas le temps de décortiquer ça serait trop long. Mais ça commence à l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est 7 ans divisés en 2 parties, 3 ans. La première partie, 3 ans, c'est 3 ans de tribulation. Et après 3 ans et demi, c'est la grande tribulation, c'est les atrocités comme jamais vues auparavant. Mais je crois de tout mon cœur que l'Église va être protégée au troisième ciel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va dire, OK, ben c'est merveilleux, notre avenir glorieux, c'est d'être enlevé avec le Seigneur Jésus et d'aller au ciel pendant que les horreurs se passent sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer au ciel pour nous? L'Église passe devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Et vous dites, oh non, passer devant un tribunal en arrivant. Mais qu'est-ce qui est merveilleux? En passant devant le tribunal de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va récompenser son Église. Êtes-vous prêt à recevoir des récompenses, enfants de Dieu? Amen. Je pose la question, êtes-vous prêt à recevoir les récompenses? Si on est fidèle puis on répond à l'appel de Dieu, on sait que Dieu nous appelle à faire des choses. Quand on va passer devant le tribunal de Christ, le Seigneur va nous récompenser pour notre obéissance. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie. Mais vous savez, si vous ne répondez pas à l'appel de Dieu, même si vous faites des bonnes choses, vous ne recevrez pas de récompense pour les bonnes choses que vous aurez faites. Vous recevrez des récompenses pour les choses que Dieu vous a appelées à faire. Amen. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui pensent que, bien, moi, je peux choisir ce que je vais faire dans ma vie. Quand on a été sauvé, on est là pour répondre à son appel. Le Seigneur nous dit, fais ça, fais ceci, fais cela. Et comme on dit, oui, Seigneur, Dieu, il met au ciel des petits points, des crochets. Je vous dis ça de même. Mais Dieu connaît toutes choses et Dieu va nous récompenser pour notre obéissance. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 10, 2 Corinthiens 5, verset 10, c'est dit, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » On va tous y passer. Tous les enfants de Dieu vont passer devant le tribunal de Christ. Les inconvertis, eux, c'est plus tard et c'est un autre tribunal. C'est un autre jugement, le trône blanc. Mais ici, on parle du tribunal de Christ, « Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Donc, pendant que vous êtes dans votre corps, là, Dieu vous appelle à faire des choses. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vie de prière, parce que comme vous priez, le Seigneur va vous dire, hey, « J'aimerais ça que tu fasses telle ou telle chose. » Je me souviens, j'ai un frère en Alberta qui était mon caméraman attitré à moi pendant 4 ans, super gentil, Andy Krajewski. Il travaillait au niveau des caméras, mais il y avait aussi une sideline les fins de semaine. Il faisait des fleurs. C'était ça sa passion, il aimait ça faire des fleurs. Il y avait un grand jardin, puis il vendait des fleurs. Une fois, il était dans son auto, le Saint-Esprit lui dit, « Arrête à cette maison ici et va offrir des fleurs à la dame dans la maison. » Il ne savait pas, là, il ne connaissait pas la femme, mais il est arrêté. Il a pris ses fleurs, c'était des, je me souviens plus les sortes de fleurs. C'est quoi donc? Des glaïeuls. Puis Andy Krajewski, il est sorti là, avec ses fleurs, là, puis il est allé voir la dame, il a frappé à la porte, il a dit, « Écoutez, madame, ces fleurs-là sont de Jésus, il vous les offre. » La femme, elle se met à pleurer. Elle venait juste de perdre son mari, était toute seule au monde. Il venait juste de mourir. Mais là, il était attentif à la voix du Saint-Esprit, offrait des fleurs, mais elle a été super bénie et touchée. Amen. Voyez-vous, c'est des choses comme ça que Dieu veut, qu'on soit à l'écoute de Dieu, qu'on réponde à son appel, peu importe l'appel, que ce soit dans notre église locale, dans un ministère quelconque, on répond à son appel et là, le Seigneur va nous récompenser. Moi, je suis sûr qu'au ciel, Andy Krajewski, Dieu va dire, ben, quand tu as fait ça, là, vraiment, moi, je t'ai envoyé comme un purulator du Saint-Esprit pour aller livrer des fleurs pour cette femme-là. Et vous savez, c'est béni de Dieu. Donc, on va passer au tribunal de Christ. On va recevoir des récompenses. Et comme on vient de lire, on ne passera pas au jugement. Remarquez, Dieu ne va pas passer à travers tous nos péchés et dire, ah, regarde, quand tu as fait ça, là? Non, parce que on a déjà été purifié par le sang de l'agneau. Donc, quand on passe au ciel, au tribunal, on va recevoir des cadeaux. C'est le fun, ça. Dans Romains 14, verset 10, ça dit, « Nous, les frères, comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Et dans 1 Corinthiens 4, verset 5, ça dit, « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Un temps de louange pour vous. 1 Corinthiens 3, 14 à 15, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Vous avez fait quelque chose, OK, et on va voir si ça va recevoir une récompense. « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Donc, il y a des choses qu'on peut faire, on a perdu notre temps. Il y a des fois, les gens font des choses pour des mauvais motifs. Ils ne recevront pas de récompense pour ça, mais ils vont être sauvés quand même. Vous comprenez? Donc, on passe là devant le tribunal de Christ, on reçoit la louange pour les œuvres, pour l'obéissance. Et là, quelle sorte de récompense? Je suis sûr que vous êtes là, vous dites, oui, mais quelle sorte de récompense? Bien, je suis content que vous avez posé la question. On va voir dans 1 Corinthiens 9, verset 25, vous n'êtes pas obligé de tourner là, mais on va recevoir des couronnes incorruptible. On va recevoir des couronnes. Et quand on parle de couronne, on parle d'autorité. vous allez voir plus tard, comme on va continuer dans notre étude ensemble, on va voir après, là, après l'Armageddon, je saute des grandes parties, mais on va venir régner sur la terre pendant 1000 ans. On va voir ça ensemble. Et pendant ce règne-là, on va régner sur des êtres humains. C'est-à-dire, ah oui, oui, on va régner. Donc, vous recevrez des couronnes et vous allez, dépendamment de votre obéissance, vous allez avoir plus d'autorité. Il y a des personnes au ciel qui vont recevoir plus d'autorité que d'autres. Ça ne veut pas dire, peut-être, vous pensez, ben Billy Graham, lui, va avoir une super de grosse couronne. Bien, ça, on ne peut pas juger comme ça. C'est Dieu qui juge. L'affaire est, c'est que nous allons régner sur des gens. Peut-être vous allez régner sur une portion, la grosseur de Rockston Pond, mais peut-être vous allez régner sur une portion grande comme le Québec. Hein? On ne sait pas, ça dépend de votre obéissance, mais Dieu va donner des couronnes d'autorité. Dans 2 Timothée 4:8, désormais la couronne de justice, en anglais j'aime mieux ça, c'est dit « Victor's Crown », la couronne de justice, mais réservée, le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous êtes ici à l'Église, vous aimez ça, entendre parler de son avènement, de son retour, bien vous faites partie de la catégorie qui vont recevoir une couronne juste parce que vous avez aimé entendre parler là-dessus. N'est-ce pas merveilleux? Vous venez de dire, bien je viens de gagner une couronne de plus au ciel. Si vous sortez d'ici et vous dites, ah oh, moi l'Apocalypse, je m'en balance, là. Bien, la couronne n'est pas pour vous. Mais si vous dites, moi, j'aime son avènement, j'aime ça, son retour, j'aime ça entendre parler, mais pas juste entendre parler, j'aime ça, le fait de croire qu'il va venir me chercher, bien, gloire à Dieu, vous allez recevoir une couronne pour ça. Parce que Dieu aime ça du monde qui aime ça l'avoir avec eux, hein. Apocalypse 3:11, ça dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » On peut se faire piquer nos couronnes. On peut se faire voler nos couronnes ici sur la terre. Donc, il faut marcher dans l'obéissance du Seigneur. Vous avez dit, oui, comment? Bien, dans Luc 16, verset 10, ça nous donne un principe. Ça dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Donc, il faut se poser la question, est-ce que je marche dans la fidélité? Est-ce que je réponds vraiment à l'appel de Dieu? Si vous dites oui, quand vous serez au ciel, au troisième ciel avec le Seigneur, bien vous allez comparaître devant le tribunal de Christ, vous allez recevoir les couronnes, et là, le prochain point, je termine bientôt, vous allez passer aux noces de l'agneau. Avez-vous déjà été aux noces? Peut-être. Si vous êtes marié, vous avez été aux noces et vous avez eu du bon temps. Mais là, ça va être une grande réunion, tous les saints ensemble, tous ceux qui ont été sauvés jusqu'à présent. On va être là ensemble, on va fêter le party avec le Seigneur Jésus. Ça va être mieux qu'un repas à Gap, à l'église de la Victoire, mais on va avoir du bon temps ensemble, on va manger et on va célébrer le Seigneur. Mais en même temps, il y a la tribulation sur la terre. Tribulation sur la terre, puis je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que ça serait trop long. Mais pendant ce temps-là, il y a une grande tribulation qui se passe sur la terre, le déversement du jugement de Dieu contre les hommes rebelles. Mais vous, vous ne faites pas partie de cette catégorie-là des hommes rebelles, n'est-ce pas? Vous êtes de cette catégorie, vous êtes là, vous dites, j'aime le Seigneur Jésus, je lui ai donné ma vie, je veux servir toute ma vie, je célèbre son retour et je sais qu'il va venir me chercher. Est-ce que c'est important pour moi de connaître ces choses-là? Certainement, parce que je demeure équilibré. Je sais que j'ai pas besoin de marcher ma vie chrétienne dans la crainte, même si j'entends parler de la pollution, même si j'entends parler qu'il y a des tsunamis dans le monde, et là, on entend dire que même il va y avoir possiblement un tsunami en Colombie-Britannique, et ça se peut que ça va se passer même avant l'enlèvement de l'Église, mais peu importe, moi je sais, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu me promet une protection absolument surnaturelle, selon le psaume 91. Moi, ma foi est relâchée pour vivre toutes les promesses de Dieu. Et vous? Amen. C'est merveilleux. Le Seigneur va venir chercher son Église. Et moi, qu'est-ce qui me réjouit? C'est la bienheureuse espérance de son retour. C'est pas une crainte massive, explosive, parce que j'ai peur qu'est-ce qui s'en vient sur l'humanité. Non. Mais qu'est-ce que la connaissance des horreurs qui s'en viennent, là, qu'est-ce que ça fait dans mon cœur? Ça me pousse à aller et prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça qui se passe en moi. Quand je sais qu'il va y avoir des choses terribles qui vont être déversées sur le monde, et même quand les gens dans le monde ils sont là et puis sont inquiets, les gens regardent la télévision, ils voient les changements climatiques, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde, les gens sont inquiets. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour leur dire. Vous pouvez échapper au jugement de Dieu. Vous pouvez passer de la mort à la vie. Vous pouvez recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, oui, ben quand je vais être prêt à mourir, je veux aller aller au ciel. Mais savez-vous, comme la parole de Dieu nous dit, on ne mourra pas tous. Hein, on ne mourra pas tous. On ne passera pas tous par la mort. Mais il y a cette catégorie de gens, on va être enlevés dans les airs avec le Seigneur. On va être protégés des choses qui vont venir. Et ça va être absolument merveilleux. Là, la question s'impose, voulez-vous faire partie de cette compagnie? Cette compagnie qui va être enlevée avec le Seigneur, qui va vivre l'enlèvement de l'Église, qui va vivre le tribunal de Christ, qui va vivre le party au ciel, le noce de l'agneau, recevoir les couronnes, toutes ces choses-là. Voulez-vous faire partie de cette compagnie? Si vous dites oui, ben gloire à Dieu, vous avez un avenir glorieux en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Et en tout cas, je me réjouis. Je vais inviter maintenant l'équipe de la louange. On va juste passer un temps maintenant pour louer le Seigneur, pour l'héritage qu'on a. Le Seigneur nous a sauvés, nous a rachetés, et il y a un grand plan pour nos vies. La semaine prochaine, on va continuer. On va parler maintenant de la tribulation. On va voir toutes sortes de choses. Je vais juste vous dire rapidement, il y a des choses qu'on va voir ensemble concernant l'eschatologie. On a déjà vu le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, la résurrection des saints, la glorification des corps. Mais là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est la tribulation et la grande tribulation, l'Antichrist, la marque de la bête, la bataille d'Armageddon, deuxième retour de Jésus-Christ, le millénium et la nouvelle Jérusalem. Tout ça dimanche prochain. Je pensais de prêcher tout ça ce matin. J'avais 13 pages de notes. Là, ma femme a dit, garoche-nous pas ça, s'il te plaît. Prends ton temps. Je dis, OK. Parce que vous savez, je suis capable de lire ça. Je suis capable de faire ça, mais j'aime ça que vous puissiez absorber un petit peu. Parce qu'on va se donner peut-être 2 semaines. Puis là, vous allez avoir un survol complet de l'Apocalypse. Après, si vous voulez passer 6 mois à l'étudier en profondeur, allez-y fort. Si vous voulez vous inscrire à l'IBEM et suivre le cours, c'est super, je vous encourage. Mais si vous n'avez pas assez d'intérêt, au moins vous savez en gros, mais qu'est-ce qui vous attend en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que c'est profitable pour vous? Moi, je crois que oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va louer le Seigneur, on va le louer parce qu'il nous a sauvés. On va juste terminer maintenant avec un mot de prière. Père éternel, on vient devant toi. On veut te remercier, Seigneur Dieu. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance. Mais, Seigneur, tu as un plan merveilleux pour tes enfants. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ce plan glorieux. On veut te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés et tu vas glorifier ce corps. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on va vivre une rencontre, une réunion merveilleuse avec toi dans les airs. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on va aller au ciel avec toi et vivre ce party céleste. Oh, merci pour ton amour pour nous. Et merci pour le règne futur, Seigneur, que tu en réserves pour nous. Merci pour ce règne, Seigneur Dieu. Oh, merci, Seigneur Dieu, qu'on n'est pas rempli de crainte comme les gens dans le monde qui se questionnent, qui ont toutes sortes de doutes. Mais Seigneur, on est dans la paix. On est dans la paix parce qu'on est dans le bien-aimé avec cette bienheureuse espérance. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Tu es un Dieu puissant. Un Dieu puissant, rempli d'amour. Tu es un Dieu vivant. Seigneur, tu vis. Tu vis, Seigneur Dieu. Tu es vivant et tout puissant, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, on veut se recueillir pendant quelques instants, Seigneur. Et Seigneur, tu vois nos cœurs. Tu vois, Seigneur, comment on a été. Seigneur Dieu, si on a fait partie de cette église apostate, certains d'entre nous, on a été dans l'apostasie où on préférait notre propre plaisir au lieu de te rechercher, toi, le seul vrai Dieu. Aujourd'hui, on veut te demander de nous pardonner. On ne veut pas faire partie de cette église de Laodicée, cette église tiède. Mais Seigneur Dieu, aujourd'hui, on se présente devant toi avec un cœur repentant et on te demande, Seigneur, de nous pardonner, de nous purifier de tout péché, Seigneur. Et aujourd'hui, qu'on puisse se présenter devant toi avec un cœur rempli d'amour et un cœur soumis à ta voix. Seigneur, on veut te demander pardon. Lave-nous, pardonne-nous. Aujourd'hui, Seigneur, on veut s'engager avec toi. On veut marcher avec toi fidèlement. On veut marcher dans la fidélité. Seigneur Dieu, on veut répondre à ton appel. On veut répondre à ton appel pour notre vie. Oh Seigneur Jésus, on veut entrer pleinement dans notre destinée, individuellement, Seigneur Dieu, corporativement, Seigneur. On veut rentrer dedans, Seigneur Dieu. On veut voir, Seigneur, des âmes sauvées à travers nos vies. Oh Seigneur, on sait que tu as un appel pour chacun d'entre nous, sinon tu serais venu nous chercher tout de suite le moment qu'on aurait été sauvés. Mais Seigneur, tu as un plan pour nous. Tu veux accomplir des bonnes œuvres à travers nos vies. Oh Seigneur, aide-nous à entendre ta voix, à marcher dans l'obéissance, Seigneur Dieu. Qu'on puisse vraiment dire oui à chaque fois que tu nous parles, Seigneur. Qu'on puisse marcher toujours un pas derrière toi. Qu'on puisse te suivre partout, Seigneur, où tu nous conduiras. Ô Seigneur Dieu, fais de cette église, fais de chaque personne dans cette église des gens en amour avec toi, des gens fidèles. Et merci Seigneur Dieu parce que tu vas venir chercher ton église. Tu ne nous as pas oubliés pour passer à travers le jugement. Mais Seigneur, tu es rempli d'amour et de compassion. Et on te remercie pour ta bonté dans nos vies. On te remercie Seigneur pour la manifestation Seigneur de ta bonté dans nos vies. On a pris au nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Merci pour ce temps. Merci pour notre héritage en toi. Merci pour notre avenir glorieux en toi. Et aujourd'hui, je veux prier pour chaque frère et sœur dans cette place et pour ceux aussi à la maison aujourd'hui. Seigneur, je relâche ma foi aujourd'hui pour chaque personne. Je te remercie pour la guérison divine aussi pour nos frères et nos sœurs qui ont besoin d'une touche aujourd'hui de guérison. On s'unit dans la foi, on décrète le shalom de Dieu sur chaque tête. Rien de manquant, rien de brisé. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.